Et voilà, Muddy Waters, vous êtes toujours sur Radio Bartas et on vous parle de blues aujourd'hui.
Le blues est un genre de musique ainsi qu'un style d'écriture de poésie issu des États-Unis. Cependant, ses origines exactes demeurent incertaines. Il a toutefois été établi que celui-ci sera le fruit du mélange des traditions musicales européennes et africaines, puisqu'aucune des deux familles n'en présente les caractéristiques fondamentales. Les origines du blues, comme celles du gospel, se trouveraient dans les chants et les manifestations musicales typiques des esclaves noirs déportés du continent africain vers l'Amérique du Nord à la fin du XVIIIe siècle. Ceux-ci apportent avec eux une culture orale et quelques instruments de musique. Les danses étant interdites ainsi que les tambours, susceptibles de véhiculer des messages, les esclaves inventent les work songs ou field hollers, sorte de chants qui rythment le travail dans les plantations. Un chanteur lance une phrase reprise par les chœurs. Petit à petit, une forme primitive de blues se développe, qui laissera place au traditionnel blues à 12 mesures. On commence à parler de blues dans les terres sudistes des États-Unis et dans le delta du Mississippi vers la fin du 19e siècle.
Le blues doit son nom au terme argotique qui désigne la dépression. En fait, le terme blues vient de l'abréviation de l'expression anglaise Blue Devils, le diable bleu, qui signifie idée noire. Cependant, comme mentionné plus haut, les origines exactes de la musique blues sont plutôt mal connues et il n'est d'ailleurs pas si difficile de comprendre pourquoi. Comme toutes les formes populaires de musique issues d'une culture orale, la tradition du blues a pendant une longue période été mal documentée. Ce n'est que durant les années 20 qu'ont été produits les premiers enregistrements d'artistes dits blues. Par ailleurs, la naissance du blues correspondait à l'éclosion des désillusions de la population noire après l'abolition de l'esclavage, 1863, ainsi qu'aux errances et mouvements de ce peuple pour quitter le sud vers les régions industrialisées des États-Unis.
Au début du XXe siècle, après l'abolition de l'esclavage, un bon nombre de Noirs d'Amérique ont quitté le sud des États-Unis pour le nord industriel, afin de se libérer du joug de leurs anciens maîtres et de trouver un travail dans l'une des grandes industries américaines. Des propriétaires auront alors essayé d'enrayer cette migration, mais celle-ci a redémarré au début de la Première Guerre mondiale. Ainsi, durant la période allant de 1916 à 1940, près de 2 millions de Noirs seront passés au Nord dans l'espoir de se faire embaucher par les industries. C'est pendant ces années qu'auront augmenté notablement les populations des villes américaines de New York, Détroit, Chicago, Philadelphie, Boston, Pittsburgh, etc.
Cette migration vers le Nord américain a changé le blues. À un moment donné, ce dernier est devenu moins l'expression du groupe que celle de l'individu. L'influence de la situation géographique a également été importante. Et alors que jouer à la campagne dans une grange ou un jug joint ne nécessitait pas d'amplification, les musiciens urbains ont dû, à un moment donné, pour se faire entendre, abandonner la guitare acoustique. C'est pourquoi, en ce temps, le blues se jouait surtout au piano. Puis à partir des années 30 et 40, on s'est mis à utiliser la guitare électrique et les micros.
Durant cette période, le bluesman traditionnel, qui est seul sur scène, s'est mis à former des groupes. Ceux-ci étaient composés plus souvent d'un pianiste, d'un guitariste et d'un batteur. Le blues urbain, et plus particulièrement de Chicago Blues, est né de cette manière. Par la suite, les blueswomen et bluesmen des villes auront quitté les bars pour se produire dans des salles, des théâtres, et les compagnies de disques ont commencé à les enregistrer.
Voici les grandes chanteuses et grands interprètes du blues de l'époque qui mènent à la Seconde Guerre mondiale. On trouve Mamie Smith, Ma Rainey, la mère du blues, Bessie Smith, Victoria Spivey, et chez les hommes, Big Bill Bronzy, Sonny Boy Williamson, Blind Lemon Jefferson, Lead Belly, Lightning Hopkins, Lonnie Johnson, Charlie Patton, Robert Johnson et d'autres encore.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'urbanisation croissante et l'utilisation des amplificateurs pour la guitare et l'harmonica menèrent à un blues plus électrique, tel que le Chicago Blues, avec des artistes comme
Howlin' Wolf, Muddy Waters ou plus tard B.B. King.
C'est ce blues électrique qui influença plus tard une partie du rock'n'roll.
Dans les années 60, les genres de musique influencés ou créés par les Noirs américains comme le rhythm and blues et la musique soul sont devenus populaires. Les musiciens blancs ont popularisé beaucoup de styles des Américains noirs aux États-Unis et au Royaume-Uni. Une nouvelle génération d'enthousiastes du blues apparaît en Europe et en particulier en Angleterre. Les principaux acteurs de ce que l'on appelle alors le British Blues Boom sont les Yardbirds, les Blues Breakers menés par John Mayall ou encore les Animals, Fleetwood Mac, Chicken Shack et inclut de nombreuses stars de la pop et du rock à venir, Jimmy Page, Eric Clapton, Jeff Beck qui intégreront à leur musique des influences psychédéliques et pop.
L'ère des civil rights a causé une croissance de l'auditoire du blues traditionnel et des festivals comme Newport Folk Festival ont eu à leur programme des prestations de grands bluesmen. Des artistes américains comme Janis Joplin, Bob Dylan ou Jimi Hendrix, tous influencés à la fois par le blues traditionnel et le blues électrique, ont fait découvrir cette musique au jeune public de l'époque. L'interprétation que les artistes des 60s ont donnée à la musique blues a eu plus tard une très forte influence sur le développement de la musique rock. Pendant les années 80 jusqu'à nos jours, le blues n'a cessé d'évoluer et de se mélanger. La musique d'Ali Farka Touré est un bon exemple de ce métissage de blues. Des magazines de blues naissent, ainsi que des festivals et des clubs dans lesquels est joué ce genre musical.
Le rythme le plus employé du blues repose sur une division ternaire de chaque noir. La noire étant un temps dans une mesure qui en contient quatre. Chaque temps est donc divisé en trois croches, dont on ne marque que la première et la troisième. On crée ainsi une impression de décalage quant à l'emplacement naturel des notes. Initialement assez libre, la structure harmonique du blues se fixe progressivement pour aboutir à une forme de base articulée autour de trois accords. Généralement sur 8, 12 ou 16 mesures. La forme en 12 mesures est de loin la plus commune. On parle de 12 bar blues, le blues de 12 mesures. Ces trois accords, désignés par les chiffres romains 1, 4 et 5, représentent le premier, le quatrième et le cinquième degré, c'est-à-dire la tonique, la sous-dominante et la dominante de la gamme majeure correspondant à la tonalité du morceau. Do, fa, sol pour un blues en do, fa, si bémol, do pour un blues en fa, etc. Les accords de base comportent le plus souvent la septième mineure. Dans les formes plus élaborées, les musiciens recourent fréquemment à des accords de neuvième ainsi qu'à différentes altérations que l'on retrouvera dans le jazz des années 40, comme le bebop de Charlie Parker. Au niveau mélodique, on utilise généralement les gammes pentatonique et diatonique, mais toutes ces caractéristiques techniques sont loin d'être applicables à l'ensemble du blues. Et il faut encore davantage souligner qu'aucun des grands créateurs du blues, lorsqu'on a pu les interviewer, n'a jamais défini le blues comme un ensemble de notations musicologiques. À la question « qu'est-ce que le blues ?», la réponse était le plus souvent du genre « The blues ain't nothing but a good man feeling bad ». Ce qui veut dire que le blues n'est rien d'autre qu'un homme bon qui se sent mal.
Loin d'être devenue ringarde, la musique blues est encore d'actualité. Elle est toujours vivante et a encore de beaux jours devant elle. En fait, le blues évolue toujours sous la créativité de nombreux musiciens talentueux, pour le plus grand plaisir des mélomanes et mordus de musique. En Lozère, nous avons My Batter Is Dead pour continuer à écrire l'histoire de cette musique. On les a rencontrés récemment, je vous laisse écouter.
Ah.
Celui qu'on attendait.
Ok. Ça va.
Tu vas bien?
Ça va.
En novembre, j'ai eu l'opportunité de rencontrer les musiciens de My Batter Is Dead, Stéphane à l'harmonica et David à la guitare. Retour sur ce moment paisible de partage avec deux passionnés de blues.
Stéphane à l'harmonica et David à la guitare.
D'accord. Vous êtes doux tous les deux?
On est très doux. Ouais.
Très très doux. On passe le message sur la place.
David, il est de Saint-Étienne.
Voilà, Saint-Étienne, Vallée française.
Et moi, je suis de la région de Forat, c'est-à-dire de Bédouès.
D'accord. Et le nom du groupe, My Batter Is Dead, pourquoi?
Alors ça, c'est le fruit d'une longue réflexion qui a duré à peu près 2-3 secondes.
Oui, un gros brainstorming de 2-3 secondes. Ouais.
Voilà, c'est apparu tout d'un coup comme une révélation à un moment où quelqu'un nous demandait « Mais au fait, comment vous vous appelez ?» Voilà. Et donc David a fait marcher ses neurones et il en est sorti ce nom.
Voilà, qui a bien fait rire l'Assemblée, donc on l'a gardé.
Pour une simple raison, c'est qu'en fait, on a cherché à un moment à trouver un batteur et un bassiste et tout, et on n'a pas trouvé à se caler avec des batteurs et des bassistes, alors du coup on n'avait pas de batteur. Et David l'a dit, on n'a qu'à s'appeler My Batter Is Dead.
D'accord. Donc personne n'est mort dans l'histoire?
Non, pas du tout.
Non. Alors au départ, j'attaquais un peu le cancer en disant que voilà, quand j'ai donné la setlist au batteur, donc hier soir, qu'il y avait 25 morceaux, je lui ai dit on a concert demain, du coup il est mort sur le coup, voilà, juste pour faire l'intro. Mais sinon, non, personne n'est mort, ça va.
Tant mieux. Alors, c'est quoi vos influences musicales? Vous faites quoi comme style? Même si on a un peu entendu au début.
Ouais, alors, moi, je suis vraiment originaire d'ici, tu vois. Et mes influences musicales, donc, c'est la musique du Sud, c'est-à-dire, mais plus du Sud des États-Unis quand même. C'est-à-dire le blues. Moi, personnellement, c'est vraiment le blues à fond. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de, grosso modo, 19 ans, j'écoutais pas de musique. Et puis, tout d'un coup, je suis tombé sur un disque de Sonny Terry et Bernie McGee. Qui sont un guitariste et un harmoniciste incroyable. Et juste le fait d'écouter ce disque, ça a révélé ma passion pour l'harmonica et le blues.
D'accord.
Voilà.
Moi, j'ai un parcours un peu différent. Parce que moi, je viens du hard rock et du métal, carrément. Voilà. Donc, je faisais jusqu'à du thrash metal, du heavy, tout ça. Mais j'avais un deuxième amour quand même. J'avais toujours le blues. Ce qui m'a donné vraiment, la musique m'a donné vraiment envie de jouer de la guitare. C'est le blues aussi, quoi. Mmh. Et bon, je l'ai fait un petit peu aussi. Avec AC/DC, c'était déjà un pas dans le blues, même si c'est considéré comme du hard rock. Et là, bon, j'avais un groupe de hard rock qu'on a arrêté. Et on s'est rencontré avec Stéphane, et on a fait un peu le bœuf et tout. J'ai dit que j'aimerais bien faire du blues et y aller à fond, que c'est une musique qui m'intéresse et que j'aime et qui me parle. Et voilà, on s'est rencontré là-dessus. Et voilà, blues, bah ouais, Jimi Hendrix, tout ça. Moi, je viens de cette école-là aussi, quoi.
D'accord. Et j'ai juste en face de moi une grosse affiche des Beatles.
Ah, alors ça, c'est la grosse influence de mon beau-père qui me prête ce local pour pouvoir donner des cours aussi de guitare. Voilà, donc il s'est fait plaisir aussi, donc il y a les Beatles, là il y a John Lennon, mais moi c'est plutôt là, Stevie Ray Vaughan et Elvis, voilà, c'est Jimmy, quoi. Voilà, Dieu est noir.
Donc là du coup ça se voit pas à la radio, mais on est dans un local de cours de guitare, parce que tu donnes des cours de guitare.
Oui, je donne des cours de guitare, oui, pour des débutants, voilà, okay. Débutants et puis plus, voilà.
Et c'est ici que vous répétez tous les deux?
Non.
Non, on répète même très peu d'ailleurs.
On s'envoie les bandes et on fait chacun de notre côté. Parce voilà. On habite assez loin, mais ça fait moins de 45 km.
Ouais.
Donc on se sert des moyens internetiques pour s'envoyer voilà, des listes de morceaux. Ouais.
Donc la plupart du temps, vous jouez sur Florac, Mende, les alentours.
Oui, c'est ça en gros. Hein,
Jusqu'à maintenant, en fait, voilà, notre projet nous a pas amené bien loin parce qu'en fait, on est aussi en cours de réflexion sur ce projet-là, sur le projet musical. C'est-à-dire que nous, on s'est trouvé bêtement un soir sur un bœuf, hein, tout simplement. Il y avait un concert à un endroit ici où David était là, j'étais là, et puis moi j'avais entendu parler de lui. Et du coup, quand il est allé jouer avec eux, ben moi j'ai eu envie d'aller jouer avec lui et tout, puis on s'est bien régalé, quoi. Et un jour, David, il avait un concert dans le sud de la Lozère et tout, et puis il me dit, écoute Stéphane, est-ce que tu veux pas le faire avec moi ce concert? Alors j'ai dit, ouais, je sais pas, c'est quoi les morceaux que tu joues, faut que je travaille et tout. Et il m'a dit, non, tu viens et tu verras, ça va le faire. Et en fait, on s'est régalé sur ce concert-là, quoi. On s'est vraiment régalé, du coup on a dit que, enfin on a décidé, voilà, de continuer à se croiser comme ça sur scène. Et plus en fait le concept du spectacle, c'était plus de jouer sur des rythmiques préenregistrées et faire des espèces de discussions guitare harmonica.
D'accord.
En free, quoi, ce qu'on sent, comme on le sent. Et je dois avouer que ouais, moi je prends du plaisir.
On s'amuse bien, ouais, on s'éclate bien. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on est en réflexion, comme je t'expliquais tout à l'heure, on ne sait pas...
Sur l'évolution.
Voilà, on sait qu'on continue de toute façon, quoi qu'il arrive, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on... Si on garde le côté électronique d'un ordinateur, de faire de la MAO, aller peut-être à fond dans l'électronique avec des sons plutôt que de repiquer des batteries, etc., le faire voilà, à fond.
Faire réellement électro-blues.
Ou alors, voilà... J'ai dégoté un batteur, un bassiste, on va voir avec eux pour aller dans une formule un peu plus traditionnelle, entre guillemets. Voilà, avec un groupe, quoi. D'ailleurs, le nom du groupe.
My batter is back.
My batter is back, voilà, c'est bien.
Donc, si vous voyez une affiche, My batter is back, c'est le nouveau nom.
Voilà, c'est le batteur ressuscité. Et voilà, donc des films gâchettes. Des films gâchettes du blues et autres qui vont nous rejoindre, et je pense que ça va.
Déjà, on va essayer de se trouver, de faire quelque chose de jouer ensemble, et puis après, on va voir sur quoi ça va tourner. Quoi.
Ouais.
On n'oublie pas non plus le fait de jouer à deux. Et en
fait, ça, on n'oublie pas.
Mais dernièrement, on a essayé de travailler plutôt des choses à deux, avec l'aide de Loop Station, justement, pour donner un peu plus de volume à la musique.
Là, les derniers concerts que vous avez faits, ça s'est passé comment?
Ah, il y a des souvenirs mitigés, c'est-à-dire il y a eu des très très bons souvenirs. Quand on a fait le 48ème de rue à Mende, c'était franchement un régal. Et puis bon, ça nous a plu à nous, ça a plu aux gens qui avaient en face.
Ouais, ouais, c'était très bien, on avait des bonnes conditions. Et puis voilà, on a fait deux concerts, c'est vrai, les deux derniers, on a eu des petits soucis de matériel, de son, voilà. Et puis nous, on n'est pas vraiment un G-son, on est plus des musicaux, du coup on a fait avec ce qu'on avait, quoi. Et nous, on s'est bien amusés. Bon, on a eu des petits retours comme quoi le son n'était pas terrible et tout, mais bon, c'est vraiment indépendant de notre volonté, quoi. Ouais. Donc on s'est dit, on était un peu tributaire de ça, du matériel d'autrui qui viendrait nous prêter du matériel, etc., qu'on jouerait dessus. Donc on s'est dit, on va faire le concept, c'est que si on a un souci d'ordinateur, on éteint tout, et puis on reste guitare, harmonica, et point barre, quoi. Et puis on, de toute façon, on a assez de cordes à notre arc, à nos arcs, même, parce qu'on a deux arcs maintenant. Pour faire un concert de qualité et puis s'amuser et transmettre notre passion aux gens.
Et puis passer le pas, se rapprocher un peu plus du public.
Quand aussi, Windows déconne, on coupe et puis c'est parti, quoi, rock'n'roll.
Yes, voilà. Super. Dans les gens qui sont encore vivants actuellement et qui tournent actuellement, qui vous rêveriez de jouer ?
Avec un mec encore vivant, pour moi c'est le dernier, c'est B.B. King, je pense. B.B. King et Buddy Guy, qui sont un peu de la même génération de... Bon, je suis guitariste, donc les guitares héros, pour ma part, c'est B.B. King et Buddy Guy, quoi. C'est les deux derniers dinosaures, parce que les autres sont en train de faire le bœuf là-haut, comme des saligots avec Jimi Hendrix et toute la bande. Et voilà, donc il y en a encore deux qui s'attardent sur notre planète, j'aimerais bien jouer avec eux, ouais.
Il n'y a pas de musicien actuel qui te plaise et avec qui tu aimerais vraiment partager
dans la jeune génération, on va dire, il y a un mec comme Joey Bonamassa ou Kenny Wayne Shepherd, des gâchettes américaines qui déboulent du blues à fond. Mais c'est différent, j'aimerais bien rencontrer plutôt des mecs qui ont connu un peu le côté club, les clubs pourris, les mecs qui ont vraiment l'histoire du blues. Là, quand je parle de la nouvelle génération, c'est des gars qui sont d'excellents musiciens, d'excellents compositeurs, mais ils ont pas le truc, ils ont tout le langage et tout le savoir-faire des bluesman, mais sans le truc, sans le vécu, quoi. Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'un mec qui va débouler des phrases très très rapides et très très jolies, bon, ça va me parler, mais un mec comme B.B. King, avec tout ce vécu, tout ce passé, toute cette richesse, il va faire une note, lui il va me scotcher par terre, quoi. Voilà, avec une note, il va me dire « David, il faut que tu apprennes encore à jouer.
» Donc le blues, c'est quelque chose qui est pour les vieux ou...
Non, le blues, c'est pour toutes les générations. Le blues, de toute façon, il est là dans toutes les musiques. Même dans le rap et le hip-hop, il y a du blues. C'est les évolutions du blues. C'est la rue, c'est la galère. C'est ça, le blues. C'est pas la jet set, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui travaillent, qui galèrent. C'est ça, c'est ça le blues. Donc, forcément, ça parle, c'est des tripes, quoi.
Oui, d'ailleurs, une des premières personnes à avoir fait des morceaux qui avaient une connotation un peu rap, c'est un mec qui s'appelle Gilles Scott-Heron.
Comment, Gilles Scott-Heron ?
Gilles Scott-Heron. Gilles Scott-Heron. Qui a une grosse voix grave et qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et non seulement parce que c'est quelqu'un d'engagé, c'est-à-dire que ça a été un des premiers à dénoncer la télévision, est-ce que la télévision appartient aux jeunes dans les années 70 aux États-Unis. C'est un mec qui a fait pas mal de prison aussi. Parce qu'il avait des revendications dures. Et c'est le premier à avoir chanté à la façon du rap sur des thèmes plutôt blues, quoi, puisqu'il il s'est construit autour du blues. Mais la plupart des musiques qu'on entend aujourd'hui, elles se sont de toute façon construites autour du blues. Quand on fait que ce soit le rock, que ce soit les Rolling Stones ou AC/DC, leurs influences, c'est le blues.
Tout vient du blues, même si on va dans les musiques jamaïcaines, dans le reggae, tout ça ont la racine, ont pris racine dans le blues. Après, ce qui en sort, c'est un peu moi je viens du métal et tout ça, donc là on est plus dans la musique classique, quoi. On est plus à travailler des modes, des gammes classiques, des mineurs, des majeurs. Le métal, il vient plus de la musique classique. Enfin, il a pris cette tangente-là à partir des années 90, mais avant, même le hard rock, il venait du blues. Les dinosaures, comme Deep Purple et consorts,
ce qui fait la différence en fait sur les sonorités de la musique, donc du blues, c'est que en fait c'est une musique qui est arrivée avec les Africains, quand les Africains, les esclaves africains sont arrivés là-bas, ils ont amené eux leur connaissance de la musique. Alors il y a d'abord le rythme, et puis après il y a une oreille particulière dans laquelle eux ils se trimballaient avec cinq notes qui était la gamme pentatonique. Donc notre gamme occidentale à nous, ils l'utilisaient jamais, eux ils utilisaient une gamme pentatonique. Et c'est ça qui fait cette connotation du blues.
D'accord.
Et ça c'est intéressant, et c'est cette gamme-là qu'on retrouve dans tous les... chez Led Zepp, chez... tout ça.
Tu peux nous la faire à l'harmonica, la gamme ?
Non, je peux pas la faire.
Ou à la gamme, ou à la guitare, ou...
On va faire la guitare, la gamme pentatonique.
La différence entre une gamme qu'on a chez nous et la gamme du blues.
Eh ben, nous en bien, on va faire... Et les blagues vont faire. Voilà.
Et en fait,
on voit le plaisir différent que tu as.
Tu vois, le mec qui s'emmerde à faire des gammes majeures. Bon, je vais te la montrer, mais là. Et ils ont ramené ça aussi.
C'est intéressant.
Plein de choses, plein d'interprétations avec les guitares, quoi, beaucoup avec les guitares, au départ, mais il y a l'harmonica aussi, hein, qui est un petit frère de l'accordéon.
Oui, alors les deux instruments de base du blues, hein, traditionnellement, c'est effectivement la guitare et l'harmonica. Parce que l'harmonica, parce que c'était vraiment pas cher à l'époque, et surtout, c'est un instrument vraiment... différent des autres, dans la mesure où c'est d'abord le seul instrument avec lequel on respire, et en plus c'est le seul instrument à vent avec lequel on peut faire à la fois de la rythmique, des accords et des mélodies.
D'accord.
Et ça donc c'est un instrument qui est très très riche. En plus il y a une tessiture qui est relativement large par rapport à ce petit instrument. La tessiture, c'est le nombre de gammes qu'on va trouver sur l'instrument.
Ouais.
Donc il y a trois octaves sur l'harmonica. Et trois octaves, ça suffit pour jouer quelque chose d'intéressant. Et je peux te faire un exemple, hein, sur la rythmique à l'harmonica. Donc il y avait des gens. Je vais prendre celui-là. Hop. Les gens, ils faisaient le train par exemple à l'harmonica parce qu'ils arrivaient à reproduire les bruits qu'ils entendaient autour. Faire de la rythmique avec ça.
D'accord.
Après, quand je te dis tu peux faire des accompagnements, ben, tu peux faire une rythmique, faire quelque chose d'accompagné. Donc, on sent qu'il y a un petit accord qui vient à côté, et puis on peut jouer aussi des notes, note à note. Des phrasés, comme on dit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'harmonica, en fait, t'as autant de notes que sur les saxophones.
D'accord, ah oui.
Voilà, donc, voire plus pour les mecs qui sont vraiment doués.
Pourquoi ils inventent des notes?
Ils inventent des notes sur, par exemple, je prends le trou numéro 3 aspiré de mon harmonica, ça fait ça. Ça, c'est la note normale. Pas celle-là. Voilà. J'ai 4 notes sur ce trou aspiré.
D'accord. Ah ouais.
Et c'est ce qui permet de faire les altérations, donc cet effet que tu montrais tout à l'heure à la guitare.
Je savais pas que c'était possible.
C'est énorme. Mais tu peux altérer toutes les notes de ton harmonica et je le fais là-dessus, mais je peux le faire sur d'autres trous. Sur des trous soufflés. Enfin voilà, tu peux faire ce que tu veux avec un harmonica. En fait, il y a des gens qui jouent du classique avec ça, ça marche très bien.
D'accord, allez, dis donc, c'est impressionnant. Du coup, est-ce que on peut vous retrouver dans des concerts à venir, des moments de...
Là, on a programmé cet hiver de travailler.
Parce voilà, qu'on s'est dit qu'on travailler cet hiver pour venir débouler au printemps, hein, on va dire. Jusqu'à présent, on n'a pas eu vraiment à démarcher, à part quand on est allé voir Amande.
Quand tu t'aimes
le Dracard.
Non, le Dracard. Le Dracard, ouais.
Voilà, c'est là, là vraiment on s'est dit tiens, on va démarcher un petit peu pour jouer. Mais sinon, c'est vrai qu'on a eu la chance jusqu'à présent, on nous propose de venir jouer, donc c'est cool. Et mais là, on s'est dit, après le dernier concert qu'on a vu, là, on s'est dit, bon, là, pour l'instant, on fait step-by, on va travailler vraiment notre projet pour arriver plus fort voilà, à la rentrée, enfin, à la rentrée au printemps. Printemps-été.
Donc, créer un vrai spectacle, en fait.
D'accord. Ouais. Si vous avez envie de faire un petit au revoir Bartas en musique.
Et voilà, c'était l'interview de My Batter Is Dead by Ondine. Merci Ondine.
De rien.
Et d'ailleurs, en petite info, le 20 décembre prochain, c'est l'anniversaire de Radio Bartas. Et on aura non pas My Batter Is Dead, mais tout de même, on aura David et Stéphane accompagnés de leur guitariste qui nous feront un petit concert en début de soirée.